les jours, les mois, les années. Une nouvelle de l'écrivain Jan Lianke. Lecture proposée par Christine Fusarelli. Épisode numéro 10. Il dormit profondément, sa conscience flottant à des kilomètres de là, le sommeil soufflant le temps comme dans un tourbillon. Son rêve s'interrompit brutalement, terre et ciel s'effondrant, lorsqu'il sentit quelque chose lui tirer le poignet. À peine éveillé, il ouvrit grand les yeux, saisit la phalange pour la brandir aussitôt en direction des loups. Un jour gris pointait à l'horizon. Il ignorait depuis combien de temps les étoiles et la lune s'étaient complètement retirées. L'entrée du ravin semblait baignée d'eau profonde. L'aïeul cligna des yeux. À quelques pas de lui, la corde avait été rompue, piétinée par les loups. La ceinture avait empêché leur progression, comme un fleuve qu'ils n'auraient pas osé traverser. Il savait qu'en rompant la corde, ils avaient éveillé l'aïeul. Aussi se tenait-il debout, éprouvant quelques regrets, les yeux rivés sur la position de force, l'air féroce de l'aïeul en même temps que sur le serpent rouge de la ceinture. L'aïeul a fermé son emprise sur la phalange, provoquant un léger grincement plaintif, puis braqua le bâton droit sur le centre de la meute. Il dénombra les loups. Il y en avait bien encore 5 devant, mais les 4 autres avaient disparu, il ne savait où. Le roi n'était plus là non plus. Un halo blême et dur glaça le visage de l'aïeul. Il continua, immobile, à fixer les loups, mais un terrible bouleversement s'opérait au fond de lui. Il suffisait que l'un des 4 loups se rue sur lui par derrière, et la lutte de toute une nuit prendrait fin. Il le savait, il mourrait pour de bon. S'efforçait de percevoir le moindre mouvement derrière lui. Sous ses pieds coulaient des gouttes de sueur froide. Les semelles de ses chaussures en étaient imprégnées. Il avait l'impression de marcher dans 2 flaques d'eau. Il employait toutes ses forces à tenter de trouver où le roi loup avait bien pu conduire ses 3 comparses de taille moyenne. Du coin de l'œil, il regarda l'entrée du ravin. Un faisceau d'or et d'argent éclairait l'endroit. Il pensa, finalement, le soleil s'est levé. Les loups sont des animaux qui supportent mal la chaleur. Il suffit que le soleil soit aussi torride aujourd'hui que les jours précédents, et ils se retireront. Tandis qu'il pensait à cela, il sentit une forte odeur d'urine. Il voulait voir quel était le loup qui n'avait pu se retenir, quand il s'aperçut qu'au-dessus de lui, de la terre s'éboulait depuis le haut de la paroi rocheuse. Il avait levé la tête en même temps que les loups. Un petit à sa suite, le roi loup descendait vers eux. Il regarda de l'autre côté du ravin. Un loup de taille moyenne descendait également la paroi depuis une autre hauteur. L'aïeul réalisa subitement que pendant son sommeil, les 4 loups s'étaient divisés en 2 groupes pour tenter de trouver le long de la pique un chemin qui leur permettrait d'accéder au-delà du goulet d'étranglement, de façon à pouvoir se retrouver derrière l'aïeul. Malheureusement pour eux, le ravin était bien trop étroit, ses parois aussi abruptes que des murs. Ils n'avaient pu faire autrement que de rebrousser chemin. L'aïeul éprouva un certain réconfort intérieur. Tel un jet de lumière, La chaleur réinvestit son corps qui recouvra sa vigueur. À cet instant, le soleil plongea ses puissants rayons vers l'intérieur du ravin. Du haut de la paroi rocheuse, le roi loup poussa un hurlement rauque et affaibli. Les autres loups l'entendirent, toisèrent une fois encore l'aïeul et le bâton, puis se détournèrent et partirent. Les loups s'étaient retirés. Ainsi, après une nuit de défi, ils partaient. Ils se retournaient de temps à autre pour regarder l'aïeul, lequel demeurait planté là, tenant toujours fermement la palanche, ses yeux étincelants fixés sur eux. Les 9 loups se réunirent à la sortie du ravin, tournèrent de concert une ultime fois la tête pour soutenir un moment encore le regard de l'aïeul, et s'éloignèrent enfin. Le bruit de leurs pas s'atténua peu à peu jusqu'à s'éteindre, pareil à la chute des dernières feuilles d'automne, laissant l'arbre dénudé. Alors, l'aïeul relâcha son emprise sur le bâton qui tomba à ses pieds. Alors seulement, il sentit quelque chose comme un ver ramper lentement entre ses jambes. Baissant la tête, il se rendit compte que l'âcre odeur d'urine qu'il avait sentie tantôt ne provenait pas d'un loup, mais de son propre entrejambe. La peur des loups l'avait fait pisser. Il donna un coup à la vieille chose pendante, insulta le vieil objet inutile, puis s'assit. Il se reposa un moment, le cœur content. Voyant les rayons solaires de plus en plus acérés, il se leva, saisit la palanche et se mit en route prudemment à la recherche d'un endroit élevé. De là, il scruta les alentours, s'assura qu'aucun loup n'était plus là, puis s'en revint fixer les sceaux sur le bâton avant de se décider à partir pour de bon. Sorti du ravin, il grimpa sur l'arête de l'ouest, puis descendit de l'autre côté. Craignant le retour des loups, il ne se reposa que 3 fois sur le trajet de chaque versant. Il arriva à la partie cultivée de la montagne. Les arêtes se succédaient comme auparavant, vagues brunes à perte de vue. On aurait dit un troupeau de bœufs immobiles, échines dressées sous le soleil. Contre toute attente, les 9 loups étaient partis. Des éclairs de satisfaction et de joie secrète bondissaient sur le visage de l'aïeul. Sur un morceau de terrain plat, il déposa la palanche, reprit un peu son souffle. Il vit au loin les loups gravir un versant, dos au soleil, s'enfonçant vers la partie cultivée de la montagne. Il dit « Putain, ils veulent encore se battre avec moi ? Qui suis-je ? Je suis l'aïeul. Ne me dites pas que vous êtes des loups, quand bien même vous seriez des tigres et des panthères. Vous croyez que vous me faites peur ?» Il cria de toutes ses forces en direction de l'endroit où les loups avaient disparu. « Si vous aviez du cran, vous ne seriez pas parti. Vous auriez continué la lutte encore un jour ou deux. » Puis il baissa la voix et dit « Partez. La source est à moi. Elle est à moi, à l'aveugle et au pied de maïs. » Il songea au pied de maïs, se souvint subitement des taches de sécheresse, son cœur se glaça. Il se pencha au-dessus d'un seau et but à satiété. Le ventre gonflé, n'ayant plus ni faim ni soif, il chargea de nouveau la palanche sur ses épaules et poursuivit sa route, s'éloignant de cette partie cultivée de la montagne. Lorsqu'il atteignit enfin son champ, il était déjà midi. Il avait passé une journée et une nuit en quête d'eau. Sans compter la lutte menée contre les loups, il avait pris des années d'un seul coup. Il paraissait avoir plus de 100 ans. En une nuit, Sa barbe sèche et clairsemée s'était terriblement allongée. Arrivé au bord de son champ, il eut l'impression qu'il allait s'abattre à terre, tel un arbre déraciné. Il déposa la palanche et les seaux, se reposa un peu. Alors, le chien s'approcha, haletant, la langue tirée. L'aïeul vit la gueule complètement asséchée de la bête, tandis que ses deux orbites mortes luisaient d'une eau noire. Le chien pleurait. Il n'était pas venu sans peine jusqu'à l'homme. Il avait d'abord entendu le faible bruit des pas, senti l'odeur de l'eau fraîche, puis s'était mis en route, titubant, chancelant, à la rencontre de l'eau fraîche. Arrivé à quelques pas de l'homme, il s'était affaissé sur le sol, paralysé de fatigue. Il ne pouvait plus bouger. L'aïeul dit « Allez, viens, l'aveugle. Moi non plus, je ne peux plus faire un pas. » Le chien fit encore deux pas et s'affaissa de nouveau. Il était comme mort cette fois. Seules ses larmes coulaient abondamment. « Je sais que tu as faim et soif, » dit l'aïeul. « Reste en vie et ça ira. » Le chien demeura silencieux, ses yeux morts rivés vers le soleil. L'aïeul eut un sursaut glacé. Il s'empressa de demander « Est-ce que le pied de maïs est mort ?» Le chien baissa la tête. Ses larmes tombèrent, tintant contre le sol. L'aïeul se dirigea vers le maïs. Prenant appui sur le bâton de la palanche comme sur une canne, il avança, vacillant sur la terre rouge brûlante, jusqu'au niveau de la cabane. L'effroi tonna dans son cœur. À cause de la chaleur torride, les feuilles n'étaient même plus à moitié vertes, les nervures elles-mêmes avaient pris une couleur jaune cramoisie. L'aïeul pensa que c'était fini, que la culture avait fini par mourir et que les deux seaux d'eau qu'il avait ramenés ne parviendraient pas à la sauver. Il était trop tard. « Ce n'est pas toi qui as triomphé des loups, » dit l'aïeul. « Ce sont les loups qui t'ont vaincu. Ils ne sont partis que parce qu'ils savaient que le maïs était mort. Ils n'avaient absolument pas l'intention de te dévorer. Ils ont passé toute une nuit à soutenir ton regard uniquement pour faire mourir la culture. » Une tristesse accablante se distilla en lui. Ses membres s'ébranlèrent. Le corps flasque allait glisser le long du bâton de la palanche pour s'écraser comme un tas de boue. Il était sur le point de s'effondrer lorsque quelque chose gicla, éclaboussant son regard. C'était une goutte de verdure au sommet de la culture, à la surface d'une feuille desséchée. Il lâcha la palanche et s'approcha de la plante. Le sommet de la tige vivait encore, malgré l'ardeur du soleil. Une très légère teinte verte perdurait. L'aïeul examina attentivement une feuille, au dos de laquelle il vit, à plusieurs endroits, de fines pointes vertes. Les lézardes de sécheresse en étaient constellées. Sur cette feuille recourbée par la chaleur, un peu d'humidité coulait encore, très lentement, à l'intérieur des nervures. L'aïeul se hâta vers l'arête de la montagne. Il fit quelques pas, rebroussa chemin pour prendre un bol à la cabane, grimpa jusque sur l'arête, puisa dans un seau un bol d'eau qu'il posa devant la gueule du chien. Il dit « Le pied de maïs vit encore. Apporte-moi le bol quand tu auras fini de boire. » Ensuite, il retourna vers la culture, un seau d'eau à la main. Devant la plante, il se pencha sur le seau afin de se remplir la bouche d'eau, tira à lui le sommet de la culture et s'efforça de cracher l'eau doucement, imitant la pluie, à l'endroit où il avait repéré la goutte de verdure. Aussitôt, une onde de fraîcheur verte s'étira sous les rayons brûlants. Sur les braises chaudes du jour, les gouttes d'eau crachées par l'aïeul crépitaient. La chaleur fauve les absorba avant même qu'elles touchent terre. L'aïeul cracha successivement 7 gorgées d'eau, lesquelles rincèrent complètement le sommet de la plante, aussi efficacement que s'il avait plu à verse pendant 7 jours et 7 nuits. Lorsque le sommet recouvra son vert émeraude d'origine, l'aïeul installa le seau au pied de la culture et se mit à en nettoyer les feuilles une à une. Il plaçait le bol juste en dessous de celle qu'il voulait laver, de sorte que l'eau répandue tombait dans le bol, puis dans le seau. L'eau versée rebondissait, éclaboussant l'épaisse et vigoureuse lumière du jour. L'aïeul passait d'une feuille à l'autre. Alors qu'il en était à la 4e feuille, il vit l'aveugle venir vers lui, tenant le bol dans sa gueule. Le chien posa le bol au pied de la cabane, puis vint se poster debout près de l'homme. L'aïeul dit « Tu as encore soif ? Il y a une source, ne te gêne pas pour boire. » Le chien secoua la tête, leva ses pattes de devant pour caresser les feuilles de maïs. L'aïeul dit « Les feuilles vivent encore, tranquillise-toi. » Le chien poussa un long soupir et s'étendit sur le sol, une expression de douceur et de détente sur le museau. De nouveau, l'aïeul puisa de l'eau. C'est alors qu'il vit, juste derrière la queue du chien, une chose noire semblable à quelque aubergine pourrie. Il regarda mieux, vit une tache de rouge jujube. Il s'approcha de la chose et donna un coup de pied dedans. C'était un rat mort. Il observa le terrain autour de lui, découvrit quelques cadavres à l'intérieur de l'abri de nattes, puis à l'extérieur encore 7 ou 8, épars sur le sol. Sur chacun d'entre eux, il vit cette tache de rouge jujube, ainsi que des traces de morsures. Cela allait sans dire. C'était l'aveugle qui les avait tués. Il appela le chien, lui demanda « C'est bien toi ?» Le chien lui attrapa doucement la main, l'attirant jusque sur le pied de la culture. Alors, l'aïeul vit un petit trou provoqué par une morsure de rat par lequel s'échappait de la sève, et la sève coulait, épaississant au soleil, formant une gomme végétale. L'homme s'assit juste devant la plaie du pied de la culture, toucha un peu la sève solidifiée, caressa la tête du chien et dit « L'aveugle, heureusement que tu étais là. Si je dois me réincarner en animal dans ma prochaine vie, je me réincarnerai en toi. Et toi, si tu dois te réincarner en homme, tu seras mon enfant. Tu verras, je t'assurerai une vie paisible. » À ce moment-là, les yeux du chien se mouillèrent, l'aïeul les essuya doucement. Ensuite, il apporta un bol d'eau fraîche qu'il plaça devant sa gueule. Il dit « Allez, bois. Bois autant que tu le souhaites. Après, je retournerai chercher de l'eau et tu devras garder le plan. » Finalement, le maïs avait repris vie. L'aïeul avait passé 3 jours successifs à laver la plante. Le 4e jour, au petit matin, il vit le sommet tout vert. La couleur avait irisé chaque feuille, imprégnant d'abord son revers, avant de s'étendre, absorbée entièrement par le buvard végétal. Les taches de sécheresse s'étaient lentement amenuisées. Quelques jours plus tard, on pouvait voir, de loin, la tendre verdure de la plante solitaire, remuant doucement, fièrement ses feuilles sous le soleil. Mais la situation était la suivante. L'aïeul et le chien avaient consommé toutes leurs provisions. Il ne leur était même plus possible de boire un demi-bol de potage de maïs émietté par jour. Durant la première journée qu'il passa le ventre vide, l'aïeul put encore ramener, en vacillant, 2 seaux à moitié remplis de la source jusqu'au champ. Le 2e jour, alors qu'il gravissait l'arête montagneuse pour aller chercher de l'eau, il fut pris d'éblouissement, de vertige, et il trébucha. Il comprit qu'il ne pourrait pas aller jusqu'à la source, Alors il rebroussa chemin, s'emplit le ventre d'eau. Le troisième jour, appuyé au pilier de la cabane, il observa le lever du soleil, vit ses puissants rayons commencer à brûler la terre alors que le croissant de lune n'avait pas encore disparu. Il prit le chien dans ses bras, lui dit « Dors, l'aveugle, endors-toi et le sommeil trompera ta faim. » Mais lui-même ne trouva pas le sommeil. Cela dura jusqu'à ce qu'il sente sur son visage l'odeur cuisante de la forte chaleur. Il but un demi-bol pour calmer sa faim. Après quoi, il eut une envie pressante. Il se soulagea, mais la faim le reprit immédiatement. Il but de nouveau, et à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le contenu d'un grand bol dans la marmite. Il dit « On ne peut plus boire. Il reste juste la ration du pied de maïs. »